moins seule que jamais. Je suis allongée sur le dos, près du poêle, la main gauche tenant encore mon tambour. Le poing grippé au cordage resserré en croix et noué au verso de sa peau. Je suis seule, mais ma tante semble pleine de présence. Je me sens moins seule que jamais. Je me redresse et m'assois face aux flammes. Mon cœur bat vite, beaucoup trop vite. Évitant de penser, je respire aussi lentement que possible jusqu'à retrouver un rythme cardiaque supportable. C'est la première fois que j'ai fait, au sein d'un voyage intérieur, un autre voyage. La cartographie de mes explorations psychiques s'en trouve doublée, d'autres dimensions, donnant à toute expérience une nature fractale. Je sais le vieil homme à mes côtés, entre sa réalité et la mienne. À peine n'ai-je perçu que sa voix me rejoint, comme celle d'un guide intérieur. Reçois de l'aide. Tu n'es pas démuni. Jamais. Mais pour être aidé, il faut d'abord prier. Synchronicité. Début de la soirée, je m'extrais doucement de ce double voyage en me focalisant sur des tâches simples. Faire chauffer de l'eau dans une vieille bouilloire troquée il y a des années contre un stylo à plumes. Préparer un thé vert mélangé à quelques feuilles d'absinthe, replacer mes coussins qui semblent avoir été piétinés par une horde et retendre les tapis sur le sol de ma yourte. J'allume deux bougies de cire d'abeille, les place de part et d'autre de mon tambour, alimente le poêle de quelques petits morceaux de bois à l'écorce parfumée et m'assois sur le coffre qui fait face à l'entrée. Bien qu'habituel, l'infusion me semble la meilleure que je n'ai jamais goûtée. J'ouvre une vieille boîte à café contenant des baies et des fruits secs, en égrène une poignée sur un bol à moitié empli de yaourt au lait de yak. Je pousse un grand soupir. Me voici de retour dans mes bottes, ou plutôt mes chaussons de peau de mouton. Histoire d'aérer mon lieu de vie avant la nuit, je me lève et me dirige vers la porte. Quelqu'un frappe juste quand j'allais l'entrouvrir. Je m'arrête dans mon élan. Il est tard, c'est plutôt surprenant. J'ouvre. Ilga apparaît dans la pénombre. Le bleu de ses yeux vibre avec le turquoise de ses boucles d'oreilles serties d'argent. Sans même attendre d'y être invitée, elle entre dans la tente en me frôlant l'épaule. Je referme la porte et la dévisage en pensant qu'elle va me parler. Mais elle ne dit rien. Elle me fixe en respirant rapidement. Puis, jette un regard circulaire sur l'intérieur de la gère. Elle s'attarde sur mon tambour et ses bougies, le temps de reprendre tranquillement son souffle avant de plonger dans mes yeux. Ma tête chauffe. Mon pouls pulse toujours plus. Mon plexus s'ouvre à mesure que les secondes passent. Je savoure cette adrénaline exquise comme un parfum de première fois dont on sait déjà qu'il ne durera jamais assez. Me revient la déclaration de Tsénèque. Ilga n'est pas censée me fréquenter. Comme si elle avait lu dans mes pensées, elle rompt ce délicieux silence. J'ai été promise par mon père à quelqu'un que je ne connais pas et qui ne me souhaite même pas. Car son cœur est ailleurs. Je reste muet tant ce plan fermement établi ne trouve aucun écho en moi. Et pour cause, c'est encore plus vaste que cela. Quelque chose ne va pas, comme si notre ligne de temps ne nous y préparait pas. Donc je suis engagée, tu le sais. Oui. Et, pour toute réponse, je lui ouvre les bras. L'instant d'après, elle s'y jette comme un animal libéré. Un hymen interdit. Même le diable fait partie du jeu de Dieu.
Quoi ?
Ontarianat me fixe, sans répondre. Puis elle éclate de rire, caresse son chien et commence à bourrer sa pipe d'un vieux tabac. Dehors, la lune se lève, immense et orangée.
Ce n'est pas clair ?
Demande-t-elle en enserrant d'une pince un tison ardent dans le foyer du poêle pour le rapprocher du foyer de sa pipe. Oizun dessert le gouriltaï au mouton bouilli et le haïrak que nous venons de partager pour le dîner. Le gouriltaï, c'est une soupe de nouilles à la viande et le haïrak, c'est un lait de jument fermenté.
Grand-mère, le vieil homme de ma vision m'a dit que je devais demander de l'aide.
Pourquoi ?
Suis-je en danger ?
Pas vraiment. Mais pour aller plus loin sans devenir fou, il te faudra de l'aide. Et pour rester du bon côté de la magie, il te faudra de nouvelles forces aussi. Certains apprentis perdent la tête. D'autres deviennent malveillants. C'est parfois la voie de la facilité. On te veut meilleur et guérisseur, ni fou ni même sorcier.
Oizun repose sa tasse de thé, regarde sa femme, puis moi, rapidement, sa femme encore, en lui faisant un grand sourire, et sort.
Ontarianat rit de nouveau.
« Ah, l'amour !» chuchote-t-elle entre deux joyeux soubresauts.
Elle rit de plus belle.
Je ne comprends pas si sa remarque concerne Oizun et elle ou Ilga et moi.
Avant que je puisse m'en exprimer, elle ajoute
« Ah là là, comme ils disent chez toi !»
Ontarianat et moi parlons souvent des proverbes ou des expressions imagées de ma langue maternelle, le français.
Ça la fait beaucoup rire.
Je le lui traduis, mot à mot, littéralement.
Alors elle fronce les sourcils parfois, les lève souvent, et finit par en rire presque à chaque fois.
L'amour donne des ailes entre chien et loup, déplacer des montagnes, voir d'un autre œil, être à cheval entre deux, reprendre du poil de la bête, avancer à pas de loup, en avoir le cœur net, rassembler ses esprits. Autant de tournures classiques qui la font réfléchir et sourire à la fois. Comme si elle s'amusait à constater que nous en disons plus que nous n'en comprenons et que nos métaphores décrivent parfois des réalités plus chamaniques que nous en avons conscience, des sens plus profonds et peut-être même bien plus réels au-delà des images dépeintes. Elle prend donc au sérieux ces bouts de phrases qui ont façonné mon éducation et ma façon d'illustrer mes pensées. Elle s'en régale et elle distingue les proverbes qui sont toujours vrais de ceux qui ne peuvent pas systématiquement s'appliquer, voire de ceux qui seraient faux dans notre pratique chamanique qu'elle affirme irréductible à toute forme verbale ou même pensée. Ce faisant, elle déprogramme certains de mes acquis pour ensuite les élargir d'autant plus.
Ontarianat ajoute « C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
C'est vrai !» pour le travail du bois et des peaux, la maîtrise des troupeaux. Mais c'est faux pour nous. On ne devient pas chaman. On est chaman. »
Elle se lève et passe les doigts entre ses kadax. Ce sont des écharpes traditionnellement accrochées aux arbres en vue de prières et de cérémonies. Soyeuses et de couleurs vives qu'elle prépare et accroche dans sa tente en vue de cérémonies prochaines. Puis s'arrête sur l'une d'entre elles, d'un bleu intense, comme si elle la déchiffrait. Brusquement, elle tourne la tête vers moi et me regarde d'un œil perçant, presque guerrier.
« Tu dois savoir ce que tu fais, et dès à présent, pour voir à ce que tu feras, car tu sais bien qu'ici-là, Ilga est déjà engagée. » Sur ce, elle sort de la yourte et me laisse seule avec son chien.
Maintenant, je comprends sa remarque.
Pour aller plus loin, sans devenir fou, il te faudra de l'aide. Et pour rester du bon côté de la magie, il te faudra de nouvelles forces aussi.
Face à face. Balade matinale dans la forêt voisine, les sous-bois sentent encore les feuilles humides et la fraîcheur de la nuit. Hier, suite à un moment dans les bras de Ilga, je n'ai pu trouver le sommeil. Sans doute étais-je également agité par le conseil d'Ontarianat, reçu après notre dîner.
Après une heure à me retourner sur mon oreiller, j'ai passé une partie de la nuit à écrire et à méditer et suis partie me promener à l'aube, seule, puis rejoint par le chien de grand-mère. Je reprends à présent la direction du campement, revigorée par ce bain d'arbres et de plantes sauvages. Des amanites tue-mouches parsèment les mousses et les jeunes pousses de leurs disques rouges à pois blancs. Certaines, à moitié mangées et visiblement appréciées d'un renard, dont les traces entourent des champignons rutilants comme des soucoupes magiques. En Occident, symbole de danger toxique, Amanita muscaria est au contraire ici l'une des figures centrales de plusieurs initiations secrètes, mais parfois dangereuses si le renne n'a pas joué son rôle d'intermédiaire entre le champignon vénéneux et l'humain. Vue comme dotée d'un esprit divin, elle est vénérée par certains comme étant la chair des dieux et crainte par d'autres tel un poison mortel. De retour dans la plaine ce matin, je n'aperçois qu'une seule silhouette, déjà levée dans les lueurs grandissantes d'une aurore violacée. Unzung, campé sur ses deux jambes, comme un compas piqué dans le sol, à proximité de jeunes rennes dans leurs enclos, à une trentaine de mètres de moi. Droit comme un poteau, il ne me quitte pas des yeux. Je continue de marcher vers ma tente. Lorsqu'il me salue d'un geste de la main, je m'arrête. Le fixe en retour, puis répond du même geste. Le chien me délaisse et repart vers la yourte de sa maîtresse. Il a les oreilles baissées, ce qui n'est pas toujours bon signe. Unzung refait un geste de la main, cette fois accompagné d'un raclement de gorge. Il insiste, comme pour m'inviter à le rejoindre. S'il veut me parler, pourquoi ne vient-il pas à moi? Je ne peux pas marcher jusqu'à lui. Car ce serait faire montre de soumission avant d'entamer un échange. Je reprends mon chemin. Il se dirige alors vers moi, d'un pas ferme. Je m'arrête de nouveau pour lui faire face. « Bonjour, Unzung. Pourquoi ma sœur est-elle venue te voir? Qu'a-t-elle dit? » Il parle vite, difficile de faire plus direct. « Demande-lui. Ça ne se fait pas. Pour ces choses-là, on parle entre hommes. » Et les femmes parlent entre elles. Alors, pourquoi devrais-je te répondre? Agacé, Unzung crache au sol la chique de plante qui lui déformait la joue. Si c'était chamanique, Ilga serait allé parler à Otarianat, pas à toi, son apprenti, et je ne te demanderai rien. Mais ça n'est pas chamanique, et je dois savoir. C'est personnel, donc ça me concerne. Unzung, dans ma culture, si c'est personnel, c'est peut-être privé. Et alors ça ne regarde personne. Dans ta culture. Mais ici, tu n'es pas chez toi. À ces mots, Unzung semble mal à l'aise. Il a parlé trop vite et il le sait. Ma position n'est plus celle d'un apprenti en tant que petit-fils adoptif et plus encore fils spirituel de Otarianat. Je fais partie de la tribu. Je suis même appelé à en devenir parfois responsable concernant certains sujets liés à la chasse ou à la guérison. Bien que mon rôle soit encore à confirmer, car traditionnellement, cette tâche est confiée à une personne d'une même lignée de bou, de chaman, de génération en génération. Un jour, je devrais donc intervenir pour la divination, pour divers rites de passage, des accidents, les morts, les offrandes, et intercéder en faveur de mes proches ou des autres. Pas forcément directement, mais dans une relation aux angoutes, aux esprits, et un rapport à la nature, aux éléments. Unzung sait bien que Otarianat parti, ou peut-être avant, je recevrai la charge du clan et de ses tâches. Ce qui me donnera un statut spécial. Je serai évalué, craint et respecté à la fois, honoré ou décrié en fonction de mes résultats, ou plutôt des nôtres, car je ne ferai pas grand-chose sans l'aide des angoutes. Plus humble que jamais, habité par le respect que m'inspire la puissance de ses alliés, Unzung reprend. Je vais t'expliquer. Ce sont les dernières volontés de mon père. Il m'a chargé de garder Ilga vierge de toute fréquentation jusqu'à son mariage, car elle est promise à Geryk, le chef d'un autre clan. Est-ce que tu comprends? Certes, je comprends.
mais mon cœur l'entend autrement.